We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les podcasts de Doc. Pantatus.net.
Alors ben on va commencer. Ah ouais, d'habitude je faisais toujours Fungloué, les poulpettes et les poulpes. Bah ben, je vais le faire alors. Fungloué, les poulpettes et les poulpes. Les poulpons, hein, parce que mon fils qui a 2 ans et demi commence à dire Toulou, Toulou. Comme il y a des petites effigies qui sont accrochées au-dessus de mon bureau, il a fait petit Toulou, gros Toulou, parce que j'en ai deux.
C'est mignon.
C'est bon, le relais est passé.
C'est foutu. Donc, le but de ce podcast qui a été, je ne sais plus à l'initiative de qui, mais on le remercie.
Ma pomme, malheureusement. Voilà. C'est moi, malheureusement.
L'idée, si je me permets, mais je vais te laisser, réexprimer le truc, c'était de comment monter une partie, on va dire, poulpique, hein, parce qu'à l'heure actuelle, on ne parle plus que de l'appel de Cthulhu, mais comment monter une partie un peu poulpique horreur pour une convention. Et moi, de ce que j'avais étendu, donc les problèmes, les difficultés, qu'est-ce que ça te spécifique, comment on sort des problèmes récurrents. Et moi j'étendrai, parce que j'ai fait il y a 2 semaines une initiation à mon boulot, donc une partie sur 2 heures le midi. Donc voilà, j'essaierai, autant que faire se peut, d'incruster, je dirais, mes remarques, mes questions ou mes retours sur cette partie qui s'est super bien passée et qui était basée sur les manteaux noirs, mais qu'on a bien sûr pas eu le temps de finir en 2 heures. Donc est-ce que je résume bien ton propos ?
Ouais, bah en fait, moi, c'est parti d'un constat, c'est que j'ai fait pas mal de conventions et puis pas mal de scénars, on va dire poulpesques de manière générale. Et
pour être précis, quand tu dis j'ai fait, c'est que tu y allais pour être participant ou comme visiteur ?
Ouais, alors j'y allais en tant que participant, animateur. Et en fait, j'ai eu pas mal d'occasions de faire du poulpe. Et donc, la grosse question que j'avais, c'était finalement, avec le recul, comment est-ce qu'on peut faire, un scénar sympa en convention, sachant qu'il y a beaucoup de conventions, sachant qu'on a plein de contraintes, donc en rapide hein, et sans rentrer dans les détails. Mais on a des contraintes de temps, on a des contraintes de lieu, on a des contraintes de personnes qui viennent jouer. Parce que quand on a un gamin de 10 ans qui vient nous dire « Ah ouais, ça a l'air super sympa, allez maman, tu viens avec nous, on va faire ça. » On n'a pas du tout le même scénario finalement.
Je vais me permettre de te couper parce que je suis le roi de la coupe. C'est juste pour savoir, toi, tu as fait pas mal de conventions. Est-ce qu'on te donnait, et je crois que Steve t'en a fait aussi, mais toi tu étais aux manettes, est-ce qu'on te donnait un cahier des charges en tant qu'animateur de partie ?
Alors en fait,
un thème, moi, une durée, des choses comme ça.
Alors en fait, moi ce qu'il y a, c'est que on me disait, voilà, tu viens, tu animes du jeu de rôle. La seule contrainte entre guillemets que j'avais, c'était proposer plusieurs jeux. Donc je venais avec 4-5 scénars différents sur 4-5 jeux différents. Et la deuxième contrainte que j'avais, c'était une contrainte de temps. Parce que quand on est sur un salon, en clair, c'était sur une des Japan Expo à Tours, beaucoup, sur le flip appartenait. On a forcément un temps plus ou moins limité. C'est-à-dire que les gens sont là pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, grand max. Donc, pas la peine de faire surtout pour une Japan Expo, pas la peine de faire un scénar de 6 heures, quoi.
D'accord.
Donc, c'était les consignes que j'avais. Et après, savoir que c'est des festivals qui sont plutôt familiaux, avec des gens qui parfois ne connaissent pas du tout le jeu de rôle.
D'accord.
Donc ça risque d'être la première partie pour pas mal de monde.
Ok.
Donc c'est ça les grosses contraintes que moi j'ai eu déjà. Et ouais. C'est vrai qu'après sur lesquelles je me suis dit en fait on fait pas du tout le même scénar si on est sur une convention de jeu de rôle où on a 7-8 heures pour une partie et si on est sur une convention familiale où on a 2 heures pour une partie.
De ton côté, Steve, toi, les conventions que tu as faites, tu étais à la manœuvre plutôt, non?
Non, pas sur les conventions de
Pas du tout.
JDR. J'ai fait du GN,
Non?
mais sur les
Et
JDR, j'ai juste été joueur. Ou
tu
meneur
avais
de jeu plutôt.
des contraintes, enfin je veux dire des demandes particulières qui t'étaient faites au moment où, je dirais, on t'inscrivait?
Alors, mis à part le temps, il y avait deux choses qui étaient exotiques. Enfin, on va dire trois. La première, c'était bien sûr d'avoir une définition à peu près claire du nombre de joueurs qui pouvaient participer à la table. Et bon, les horaires, on les a déjà abordés. Sur des conventions qui remontent maintenant à une vingtaine d'années à peu près, au début, on nous demandait d'avoir un support et de le remettre. Dans l'idée de pouvoir faire une base de données de scénar pour les années suivantes, ou bien dans l'idée où un autre meneur de jeu pouvait y jouer. C'était un peu contraignant, mais ça a été abandonné assez rapidement. Et
D'accord.
sinon, de manière un peu plus inédite, on a eu des semi-contraintes scénaristiques sur une convention à laquelle je participe depuis 5 ans maintenant, qui s'appelle Nuit Blanche sur l'Alsace, et qui est exclusivement dédiée à l'appel de Cthulhu. Dans laquelle, en fait, on a une contrainte de lieu, c'est-à-dire que tous les scénarios sont censés avoir une accroche dans notre région, pour la mettre en valeur, et aussi, on va dire, une semi-contrainte de fil rouge, c'est-à-dire qu'il y a un fil rouge qui est proposé transversalement à tous les scénarios, et libre aux joueurs de l'adopter ou pas, avec même des débouchés sur des scénettes en semi-réel qui sont assurées par un staff. Qui se coordonne avec les MJ avant la convention.
Alors là, cette partie-là, c'est moins une contrainte que ça aide, non?
La dernière, oui, ouais,
Oui,
effectivement, puisque
ça
c'est de
aide.
l'optionnel, c'est vraiment
Et puis ça aide un peu à
du
calibrer le
bonheur.
scénar, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quel scénar on doit prendre ou des choses comme ça. Ouais, d'accord. Ok, donc ouais, donc ça peut être soit un thème. Après, la durée, on ne vous la fixe pas totalement, mais on vous donne un petit créneau, quoi. On vous donne pas le nombre de joueurs, parce que vous pouvez vous retrouver avec deux joueurs comme 4 ou 5 s'il y a toute une famille qui débarque. Le jeu, après, là, vous êtes assez libre. S'il n'y a pas de thème, le thème est fixé, mais au niveau jeu, c'est souvent assez libre. Après, on peut se retrouver à faire une démo d'un jeu sur sur la table d'un éditeur, mais dans ces cas-là, je pense qu'ils fournissent le scénar. D'accord. Et globalement, attends, alors j'ai juste.
Ah, une dernière chose,
Ouais,
juste
vas-y.
pendant que tu cherches, il y avait aussi une originalité sur les dernières conventions que j'ai faites, c'est que les gens, et je trouve que c'est bien, nous demandent un pitch de notre partie pour expliquer en quelques lignes ce dont il va s'agir, parce que souvent les scénarios, enfin les gens peuvent s'inscrire à l'avance sur les scénarios, et aussi, et un truc qui est assez appréciable, c'est les recommandations du MJ, c'est-à-dire en gros,
Ah.
on explique si vous aimez ça, alors vous allez vous amuser. Par contre, si ça c'est important pour vous, alors vous allez vous ennuyer.
C'est pas mal ça.
Ça vous est déjà
Alors
arrivé
ça,
ça?
ouais.
Non, pas personnellement. Par contre, j'ai une autre chose aussi. Zut, ça m'échappe.
Bien,
Oui,
pendant que ça
le.
t'échappe,
Vas-y.
moi, pour le coup, je vais carrément rebondir à ce que disait Desparit, c'est que oui, ça m'est déjà arrivé que les organisateurs me contactent pour me demander à l'avance, avant que la convention ait lieu, pour me dire, ah bah tiens, on a des joueurs qui sont éventuellement intéressés par le Cthulhu, mais voudraient savoir si c'est tel ou tel scénario que tu as déjà fait ou pas. Donc
D'accord.
effectivement, dans ce cas-là, on se retrouve à faire des petites recommandations pour dire, ah, si vous êtes plutôt dans le mythe, ça va vous intéresser, si vous cherchez plus du combat, peut-être moins, enfin ça dépend de ce que je proposais.
D'accord.
J'ai retrouvé mon idée. C'est aussi le scénar au pied levé. C'est-à-dire que il y a l'année dernière, non, il y a 2 ans, au Flip appartenait, je venais pour faire complètement autre chose. Et puis, en fait, le staff avec qui j'étais avait un petit peu de retard et je me suis retrouvé une après-midi complètement dispo. Et puis, les gars qui me disent, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, je peux animer du jeu de rôle éventuellement en speed. Et donc un Cthulhu sans système, sans rien, avec juste des joueurs qui arrivent et en avant. Là, c'est vrai que ça a été assez fun.
Ouais. Alors, juste pour revenir sur une chose, Steve, ce dont vous parliez là, de donner un peu le propos, l'intention de la partie, autant, j'ai pas tous les noms, autant le deuxième intervenant, tu vois, tu disais, c'était en avance de phase parce qu'il allait y avoir finalement des rôlistes à ta table. Par contre, toi, ton côté, Steve, est-ce que c'était genre de la PLV, quoi, de la publicité juste à côté de ta table, et les gens passaient à côté, regardaient et s'installaient si ça les intéressait?
Non, on essayait en fait, enfin sur la conve où j'étais, ils essayaient de régler à l'avance les inscriptions et de prévoir ce que tu disais tout à l'heure, enfin ce que Dark Keeper disait tout à l'heure, je crois, c'était qu'il y avait aussi sur certaines conves des gens qui étaient invités à proposer librement des parties pour pouvoir remplir les gens qui venaient à l'arrache ou qui venaient pour des découvertes.
D'accord.
Mais en général, c'était assez réglé à l'avance. Comme ça, chacun savait avec qui il jouait.
Alors, ce qui va peut-être être une question, c'est que pour vous, en convention, il vaut mieux avoir prévu le scénar ou il vaut mieux l'improviser?
Alors, pour moi, je pense qu'il faut quand même avoir au moins un squelette de ce qui peut se passer, parce qu'on ne peut pas... Souvent les scénars ils sont assez fixes et c'est très dur de les adapter si le nombre de joueurs évolue. Je pense à des scénarios qui peuvent être assez mortifères si s'il y a peu de PJ, ça devient très difficile à réaliser. Ou l'inverse, où on se retrouve avec 5 personnes qui fondent sur le pauvre PNJ en mode Gestapo parce qu'il n'y a qu'un indice de prévu. Mais après, effectivement, il y a une. Pour moi, jouer en convention, c'est une part d'improvisation presque obligatoire. En fait. C'est très dur de rester dans des rails.
Mais tu prévois quoi alors dans le scénario finalement? Tu prévois les gros éléments, les gros personnages?
Je prévois l'horrible vérité, donc ce qui se trame réellement. Je prévois la scène d'accroche avec je plante un premier décor et éventuellement j'ai une ou deux scènes marquantes en tête que j'aimerais faire jouer et pour le reste c'est de l'adaptation.
D'accord.
J'irais peut-être un peu plus loin même par rapport à prévoir un jeu, prévoir un scénar. Moi je pense qu'il est intéressant en fait d'avoir par exemple un ou deux, alors squelette plus ou moins étoffé, mais un plutôt à destination de joueurs qui ne connaîtraient absolument pas, donc qui peut pour le coup être faisable à deux ou trois, puisqu'on ne va pas être forcément ultra pointu, ultra complexe au niveau des intrigues, et un deuxième squelette où là par contre on va peut-être pouvoir aller un peu plus loin. Aller un peu plus fort si on a effectivement des joueurs qui connaissent déjà l'appel, ou alors du moins trouver quelque chose qui puisse les sortir de ce qui potentiellement ont l'habitude de jouer.
Ouais, mais alors là tu me diras, c'est vrai qu'on est en convention, donc là on sort des gens qui découvrent.
Alors, on peut avoir des joueurs qui connaissent très bien l'appel, qui viennent juste pour dire j'ai envie de me marrer. Je suis pas souvent joueur sur Cthulhu. Je vais faire un jeu Cthulhu histoire de rigoler, quoi.
Ça peut être les casse-couilles, ça.
Ouais.
Oui.
Ou les très bonnes découvertes.
Ou les très bonnes découvertes. Ouais. D'accord. Donc, et toi, ton côté des sprites, pour les conventions, tu es plutôt préparation légère ou rien du tout ou...
Chaud. Alors, ça, c'est chaud. Ça varie, mais globalement, je suis d'accord avec Dark Keeper, c'est-à-dire que on peut difficilement, on va devant beaucoup de stress si on a un scénario écrit pile poil aux petits oignons, dans la mesure où on risque de pas connaître ses joueurs. Parce que si tu connais tes joueurs, tu peux faire un truc qui est, disons, assez prévu, parce que tu les connais, tu connais un peu leur manière de jouer. Mais quand tu vas à la rencontre d'inconnus à ta table, je pense qu'il faut vraiment venir avec une boîte à outils. C'est-à-dire, comme disait Dark, une situation de base, et après, selon ton scénario, peut-être une timeline, des événements qui vont se passer indépendamment des joueurs, un plan des lieux, une liste de noms de personnages, quelques éléments qui vont faire rebondir l'intrigue. Ça dépendra vraiment de ton scénar. Mais je pense effectivement que si tu veux que tout le monde s'amuse, il faut vraiment improviser en fonction des gens qui sont en face de toi.
D'accord. Donc, ouais, une base, mais rien de vraiment figé.
Non.
Et bien, je pose cette question-là parce que moi, je le vois avec toi, qu'on a toujours du mal à avoir des scénarios pour convention. Donc, derrière, se pose en moi la question, à l'intérieur de mon moi interne, c'est est-ce que c'est parce qu'on les improvise et que donc les mettre sur papier, c'est pas terrible. Est-ce que ouais, c'est compliqué de les mettre sur papier parce que finalement il y a très peu de choses et tout va se faire pendant la partie. Je me pose un peu cette question-là.
Moins que la majorité d'entre eux n'aient pas été conçus pour faire de la convention. Donc, souvent, ce sont des scénarios plus longs qui peuvent s'autoriser que les joueurs, par exemple, aillent pas du tout dans la direction qui était prévue, ou il peut y avoir des zones de blanc, des réflexions, etc. Alors qu'en convention, où on a du temps beaucoup plus réduit, ça par contre, c'est pas trop possible, et ça m'est arrivé plus d'une fois de lâcher complètement mon speech de départ et de réimproviser un truc dans le choix des joueurs, parce que je savais que sinon, je parviendrais pas à rattraper les branches, quoi.
D'accord.
Bon, après, j'ai presque même l'impression qu'il y a une espèce d'antinomie entre le scénar qu'on va publier et le scénar de convention. C'est-à-dire, pour moi, le scénar qu'on va publier, c'est aussi quelque chose qu'on va vraiment pousser jusqu'au bout, où on va donner toutes les pistes qu'on peut avoir, etc. Tandis qu'effectivement, le scénar de convention, je rejoins complètement Dark Keeper et des sprites, on est beaucoup plus sur de l'improvisation, sur un véritable canevas de scénario, en disant voilà, ils vont rentrer dans la maison, il y a une ou deux scènes qui peuvent être drôles là et là, et puis après grosso merdo, voilà ce qu'il faut qu'ils fassent, et puis voilà par quoi ils doivent, enfin les éléments qu'ils doivent trouver. Après, s'ils trouvent la clé dans le sous-sol ou s'ils le trouvent dans le grenier, bah en fait on s'en fout un petit peu, quoi. C'est il y a moins d'importance là-dessus que sur un scénar vraiment rédigé où on va dire voilà, la clé elle se trouve au grenier. Mmh. Et par principe, si c'est écrit au grenier, bah on va avoir moins tendance à vouloir le déplacer.
J'ai peut-être une réponse à proposer s'agissant du médium, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'écrire un scénario conventionnel pour ou après une convention. Je pense que le médium, enfin moi j'ai testé pas mal de trucs et celui qui me convient le plus c'est les mind mapping. Je sais pas si vous connaissez.
Oui.
C'est très efficace et depuis 5 à 10 ans, plutôt 5 ans, je joue que avec ça, en convention.
D'accord.
C'est vraiment très 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 efficace. On retrouve vite les thématiques, les noms, les relances.
Ça se rapproche un peu des portages qu'on avait fait avant qu'on n'ait plus le droit de le faire, des scénarios pour Trail of Cthulhu.
Il y a un peu de ça.
D'accord.
Tu voulais dire Dark Keeper?
Oui, bien que dans Trails of Cthulhu, finalement, comme c'est un système qui est assez libre, tu peux trouver des scénarios qui sont très très rigides, comme des trucs comme l'affaire Armitage, qui sont complètement arboricoles, si je peux me permettre, en termes de structure. Alors,
je parlais pas forcément des scénars en eux-mêmes de Trails of Cthulhu, je parlais, à un moment donné, sur TOC, on avait essayé de repasser des scénars de Cassius en mode... Trail of Cthulhu, et je me rappelle, c'était Carter qui avait fait ça, et il faisait l'organigramme, enfin pas l'organigramme, mais le diagramme du scénario, en disant tel indice mène là, si vous l'avez pas, vous allez là, puis... Je sais pas si ça se rapproche un peu de la construction que tu fais, Steve, avec tes cartes mentales, mais...
Là, on est sur de l'audio, mais je pourrais vous partager une représentation que vous puissiez voir à quoi ça ressemble.
Pour répondre à ta question...
La carte mentale, je sais à quoi ça ressemble. C'est une arborescence qui pop au fur et à mesure et qui se déplie, qui est un peu centrée, quoi. Mais c'est surtout voir ce que tu mets dedans. C'est-à-dire, est-ce que tu mets donc une pièce et tu mets en étoile autour les indices? où tu mets des scènes et tu mets autour...
Alors, c'est comme un film, comme une fiche Wikipédia de film, c'est-à-dire que j'ai mon script, donc vraiment le scénar de base. Ensuite, j'ai toute une partie de l'arborescence, c'est les personnages, avec des ramifications, les neutres, les ennemis, les indécis. J'ai aussi les lieux, et ensuite dans les lieux, j'ai des subdivisions en fonction des différents lieux, et je colle chaque fois des idées quand ça me vient, etc. Les thématiques, des fois, des choses à ne pas oublier. Tu vois, tu peux vraiment caser de tout. C'est-à-dire à la fois ce qui est complètement en jeu et ce qui est complètement méta-jeu. C'est-à-dire, par exemple, avant le début, distribuer les fiches, etc. Tu vois, tu te fais une liste des choses à faire.
Oui, ah oui, ça fait aussi to-do list, d'accord.
En y réfléchissant, pour moi, il y a de très bons scénarios de convention sur TOC. C'est les Tales of Terror. C'est pour ceux qui les ont pas encore regardés, jetez-vous dessus, c'est juste génial. C'est en fait des pitchs. On va avoir par page un pitch, plusieurs explications de cette scène initiale, et puis plusieurs conclusions possibles. Et en fait, après, à nous de piocher, soit en mode complètement random, je lance un DX pour le nombre de pages, un D3 pour l'explication, un D3 pour la conclusion, et puis voilà. Et en fait, c'est pour moi des très bons scénars de convention, puisqu'en fait, on est complètement libre, finalement, de faire ce qu'on veut. Et même pour un même scénar, donc si certains ont déjà fait jouer un scénar plusieurs fois, on se rend compte que c'est, on n'a jamais la même histoire. Et là, c'est encore plus...
C'est une bonne piste, ça.
Ouais. Et là, c'est encore plus vrai parce que ben on a juste le squelette, voire même la substantifique moelle du squelette, qui après, c'est nous l'approprier et nous le faire évoluer.
D'accord. Et quand vous préparez des scénarios, vous vous basez sur, on va dire, quel horaire ?
Alors, me concernant, les confs que je fais, les rondes sont de 4 heures. On peut dépasser, mais pas de beaucoup. Donc, en général, je monte des scénars sur 4 heures. Sachant que, je consacre une vingtaine de minutes, le temps que les gens arrivent, présentation du système, choix des pré-tirés, etc. Et pour le reste...
4 heures, hein, c'est quand même long, hein.
Ah bah, après moi ce que je fais c'est surtout des convs où je vais avoir principalement des convs spécialisés jeux de rôle. Souvent les convs du nord de la France, je pense notamment à la convention de la Cage au Rôle à Douai ou encore à celle des héros de Lambert à Lambersart à côté de Lille, qui sont d'excellentes conventions d'ailleurs, allez-y, mais qui pour le coup oui sont dédiés jeux de rôle.
D'accord. Parce que c'est un peu différent. C'est un peu différent d'une convention style le monde du jeu ou un truc comme ça, où là, tu es vraiment, je dirais, tu peux avoir de tout à la table en même temps. Enfin, voilà, des gens, gens qui viennent, tu sais vraiment pas ce que tu as. De votre côté, les deux autres, que ce soit Steve et puis j'ai pas retenu ton nom.
Sergissant.
Sergissant, pardon, c'était toi. Et vous, vous êtes plutôt convention de jeux de rôle ou des conventions un peu ouvertes ?
Pour moi, c'est plutôt convention de jeux de rôle.
D'accord.
Il y en a très peu qui sont ouvertes, hein, d'ailleurs, dans notre région.
D'accord.
Ben moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt justement convention ouverte, même si au flip... faut savoir que donc c'est le festival de Parthenay. Donc faut savoir qu'il y a la ville de Parthenay qui a son festival et il y a ce qu'on appelle le village parallèle qui est en marge du festival où là on a des salles qui sont ouvertes jusqu'à 4, 5, 6, 7 heures du matin. Donc effectivement, on peut très bien se retrouver généralement c'est plus le soir avec des tables de jeux de rôle qui vont durer de 21 à 6 heures du mat. C'est faisable.
Parce que pour moi, en convention de jeux de rôle, alors je sais pas, je me trompe peut-être, mais je vois pas trop. Alors après, à part que les joueurs, c'est la première fois que tu les vois, mais moi j'aime bien ça dans le jeu de rôle au contraire. Et sinon, je vois pas trop de complexité. Parce que si la partie elle peut faire entre 4 et 8 heures, ça fait bon un scénar court, mais on peut caser des choses, quoi. Il y a peut-être des difficultés que je ne vois pas. Je vois des difficultés dans le. Moi, quand je faisais le monde du jeu, voilà, tu te poses, et puis j'étais faire un salon aussi à côté de chez moi, là. Et voilà, les gens qui viennent, c'est pas des gens qui connaissent même ce qu'est le jeu de rôle. Donc je sais pas si. Enfin, je pense que c'est deux optiques.
Moi, j'ai eu donc pas mal d'expériences avec du joueur lambda. Les formats que moi sur lesquels je m'astreins, c'est 2 heures explication de règles comprises. Ce qui fait que les explications de règles et choix de perso, elles sont très rapides, et voire même elles arrivent en cours de jeu.
Donc, alors ça c'est intéressant. Donc, je pense que dans tous les cas, vous arrivez avec des pré-tirés, non ?
Oui.
Systématique.
Ouais.
Tout systématique, ouais. Comme ça en plus ça permet de les teinter avec un background, avec des choses qui vont ricocher dans le scénario. Donc vous arrivez avec... Et alors, pour les parties les plus courtes. Donc comment vous attaquez, toi tu dis Sergissant, toi t'as tendance, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est tendance à attaquer peut-être en attaquant pas avec les règles en elles-mêmes, bien que je vais te demander comment tu fais quand les gens ils connaissent pas du tout le jeu de rôle.
Alors quand ils connaissent pas du tout le jeu de rôle, généralement c'est une partie avant où les joueurs vont s'inscrire, on va leur expliquer grosso merdo ce que c'est. Moi, l'exemple que je donne quasiment tout le temps, parce que je le trouve très bon, c'est ni plus ni moins que quand on joue aux cow-boys aux Indiens. Sauf que tout le monde voulait être les cow-boys quand on était gamin, personne ne voulait jouer les Indiens. Bah là, tout le monde va jouer les cow-boys, et moi, je vais jouer tous les Indiens. Donc, c'est, enfin, déjà, ça leur donne...
On sent qu'il a fait des conventions pour enfants, Serge.
Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que c'est une image qui parle à tout le monde.
Oui.
Parce qu'en fait, finalement, on fait du jeu de rôle plus. Tout le monde qui a toujours fait du jeu de rôle quand on est gamin, ben, quand on joue, c'est ça, quoi. C'est juste qu'on a un petit peu plus de règles maintenant. Voilà.
Alors, pour compléter... Moi, j'en ai fait une au boulot. Ce qui marche aussi bien, c'est que maintenant, dans les entreprises, il y a souvent des jeux de rôle qui sont faits. Genre, vous êtes le patron et vous devez virer 2 personnes. Choisissez entre vos potes, Maurice, Gustave et et on leur dit que c'est des jeux de rôle. Donc, c'est vrai que moi, je leur ai dit ça. Bon, après, ils ont été un peu choqués. Hein. On a fait les manteaux noirs, donc forcément, j'ai commencé par étrangler un en arrivant dans le dos. Donc. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'il faut essayer de se raccrocher. Parce qu'en plus, les gens ont parfois tendance, alors après ça dépend, mais tendance à se dire il faut un PC, il faut se déguiser. Enfin, les questions peuvent être assez diverses et variées. Quoi. C'est un peu c'est le jeu de rôle. Moi, je sais, quand j'ai eu beau leur expliquer, mais quand je leur ai fait la partie, à la fin de la partie, ils m'ont dit ah putain, c'est ça! Ah, de ouf, quoi, mais je savais pas du tout. Bon, c'était assez marrant, il se faisait un peu une idée du truc. Je sais pas les autres si vous avez des avis un peu là-dessus, sur le démarrage. Est-ce qu'il faut expliquer d'abord, ou il faut les lancer dans le bain, leur donner un dé et puis leur donner la fiche après, ou...
Moi, c'est vrai que perso, j'ai tendance à leur expliquer vaguement. Bon, ce que c'est que le jeu de rôle par cette métaphore du jeu de quand on était enfant, et puis leur dire ben voilà, le jeu que je vous propose ou que je peux, les jeux que je peux vous proposer, ben ça va être plutôt dans tel thème, plutôt dans telle ambiance. Si effectivement ben vous êtes sensible, on va peut-être éviter tel jeu. Si par contre vous aimez l'histoire pirate, ben tiens, ça tombe bien, j'ai apporté un jeu sur les pirates. Et puis leur dire ben le mieux finalement c'est de se lancer en leur disant que voilà, si jamais ça vous convient pas, ben vous pouvez partir en cours de partie, c'est pas grave, enfin moi c'est pas moi que ça va gêner. Et au final ben c'est arrivé effectivement que j'ai des gens qui ben non, finalement ça m'intéresse pas, au bout d'une heure de jeu ben non, on va y aller. Et puis d'autres qui me disaient bah ouais, mais on a qu'une heure et demie de jeu, puis au ben, bout de 2h30 ils sont encore là, quoi.
Voilà, donc c'est bon. J'ai aussi eu le cas inverse, c'est-à-dire la personne qui voulait venir voir ce que c'était.
Ah oui.
Venir voir.
Alors ça.
Moi, ce que je, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je le dis. Il y a un personnage que je vais jouer. Et si tu sens l'envie de rentrer dans l'histoire, eh bien, je te passerai le personnage et tu pourras le contrôler. Et je lui présente en gros le personnage et je commence à jouer. Et il arrive toujours un moment où la personne a écouté, elle aurait dit « Ah non, mais moi, je ferais plutôt ça ». Et au moment où elle intervient, je prends son personnage et je fais « Ah, alors, ton personnage dit donc cela ». Et en général, les personnes acceptent de bon cœur de rentrer comme ça.
Directement, ouais. D'accord.
C'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça, avec les gens qui disent bah ouais, mais est-ce que je peux juste regarder? Généralement, je leur dis bah oui, vous pouvez toujours regarder. Je lui dis mais ce qu'il y a, c'est que vous allez louper quelque chose. Quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous allez louper quelque chose. C'est leur dire ben oui, effectivement, si tu regardes, c'est sympa, mais tu vas perdre peut-être 50% du jeu. Parce que tu ne seras pas impliqué.
Je leur dis quand même de fermer leur gueule. Parce qu'il ne faut pas que les gens qui sont autour de la table, pendant une session, hein, parce que si on est en salon, il y a des gens qui passent, mais parce que souvent les gens, ils sont à côté, au-dessus de l'épaule, c'est « Ah ouais, c'est quoi cette caractéristique ?» Attends, mon... Ah, monte ton dé. Ah putain, il est trop marrant le dé. Ah, Matt, il est chelou le dé. Donc, mais d'accord, ouais. Je vois ce que tu veux dire, c'est de leur dire que finalement... Ouais, que finalement, ouais, regardez. Après ça, on est d'accord que c'est quand on arrive à se poser, parce qu'il y a quand même souvent en convention des gens qui passent, qui s'arrêtent, qui posent une fesse, qui se cassent, qui répondent au portable, des choses comme ça.
Après, moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des espaces dédiés. Alors, d'accord. Pas forcément toujours en grand luxe. Hein. Je me suis retrouvé une fois à faire du jeu de rôle. Avec 6 tables autour de moi, dans une petite pièce qui résonnait.
C'est sympa, c'est...
Ouais, mais...
Attends, moi, au salon du jeu, je l'ai fait à côté du... Tu sais, le jeu vidéo où tu marches sur un tapis musical...
Avec un écran... Dance Dance Revolution.
Voilà.
Mon Dieu.
J'ai à côté. Et t'as sûr... J'ai pas réussi à faire peur, hein, soyons honnêtes.
Ils ont survécu à côté.
À un moment donné, on s'est dit qu'on allait aller les voir. D'accord. Alors, pour attaquer un peu le scénario, donc vous avez préparé vos pinceaux, vous avez une trame. Donc, merci Steve pour la carte mentale. Donc, vous faites un peu une trame un peu globale. Maintenant, comment vous accrochez? Est-ce que vous accrochez de façon particulière la partie? Parce que moi, je vois par exemple pour les manteaux noirs, c'était une très bonne idée que Steve et les autres ont conseillé, mais en réalité, elle part par un repas, les gens se rendent compte, et puis je vais étrangler un des joueurs. Et ça, tout de suite, ça met dans l'ambiance, quoi. J'ai même pas eu besoin de faire d'efforts après. J'ai bien décrit tout ça, la neige et tout, mais bon, voilà, après, ça part. Je sais pas si. Comment vous lancez vos parties de convention? Est-ce que. C'est ce que je disais dans le document, est-ce que vous lancez, comme ils disent. In media res, là, chez les... Donc, directement dans l'action, ou vous faites comment?
Me concernant, ça dépend des parties. Il y a des parties où, effectivement, je fais un début in media res, une scène de fuite, ou quelque chose qui va amener les joueurs à se souder entre eux. La bonne vieille tactique des militaires, on prend les gens, on les met dans la merde, comme ça, ils se serrent les coudes. Ou alors, quand je veux une partie plus en ambiance, je commence à décrire quelque chose et puis je pose un décor. Souvent, en plus, j'ai un peu de musique à côté de moi et ça met les joueurs dans l'ambiance avant la fatidique question « Que faites-vous ?»
D'accord, musique aussi, d'accord. Et toi, Desprite ? Enfin, non, excuse-moi, Darkkeeper, tu voulais dire quelque chose ?
Non, c'est Sergi.
S'agissant.
Non, en fait, moi, c'est vrai que par principe, je m'arrange pour que tous mes prétirés se connaissent déjà. Un petit peu, entre guillemets, une possibilité, en fait, des manteaux noirs, où tout le monde a au moins un personnage de commun. J'ai un scénar où c'est tout le monde, c'est une bande d'amis, et puis ils partent en vacances en bagnole. Donc, je m'arrange, en fait, déjà pour que tout le monde et des accroches communes. Que ce soit membre d'une même famille, que ce soit un groupe d'amis qui se balade, ou voilà. Ce qui fait que déjà, ça évite l'écueil entre guillemets de la scène d'introduction où par le plus grand des hasards, on se retrouve avec un psychanalyste, un médecin, un avocat et une vendeuse de cacahuètes dans un supermarché qui se retrouve au même endroit. Ouais.
Mec.
C'est plus compliqué, quoi.
Ouais, d'accord.
Moi.
Vas-y, excuse-moi, Steve, vas-y.
Ouais, désolé. Moi, c'est aussi un peu. C'est un peu un mélange des deux, mais ça se retrouve aussi. C'est d'abord, il y a en général toujours un moment où je fais monter l'ambiance. C'est-à-dire que c'est comme une nappe de brouillard qu'on voit pas tout de suite, mais qui monte assez vite. Et au bout d'une demi-heure à peu près, maxi, les joueurs sont dans l'ambiance. Et c'est souvent assez posé dès le départ. Et après une demi-heure à une heure de jeu, ce qui passe très vite, hein, en convention, vous en conviendrez tous, c'est la grosse claque. Alors c'est pas forcément une grosse scène d'action, mais c'est quelque chose qui va les ravir. C'est un truc vraiment qui les arche au monde et qui va les mettre dans le scénario.
D'accord. Ouais. Donc pas forcément dès le début, mais rapidement.
Ouais. J'ai déjà testé dès le début, c'est un peu plus acrobatique, parce que les joueurs sont pas encore dedans, et quand tu les balances tout de suite avec des décharges d'hémoglobine, des mecs qui courent partout dans un asile et des sirènes,
c'est un peu chaotique. Ouais, ils sont pas forcément d'accord. Un petit début au masque, quoi. d'accord. Donc, ouais, plutôt partir. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Parce qu'après, bon, sur une partie qui va durer 2 à 4 heures, j'imagine qu'il n'y a pas forcément plusieurs climax. Il y a. On va s'attendre un peu, sans doute, que la scène arrive à la fin, la scène de fin arrive à la fin, comme bien entendu. Ou est-ce que vous faites des choses parfois, genre ça monte au milieu et puis ça redescend à la fin?
Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des ouvertures. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu, à un moment, t'as le Grasse qui vient de défoncer les cutis dans le bayou, qui va voir des archéologues et qui apprennent que les Inuits ils font la même chose au Groenland. Et l'idée, c'est que t'es un climax de fin après la grosse scène d'action ou qui ajoute le côté horreur cosmique au scénario.
D'accord.
C'est vrai que je suis un petit peu plus mitigé là-dessus, c'est-à-dire que généralement mes scènes d'action entre guillemets j'en ai assez peu, tout simplement parce que une scène de combat ça prend du temps. Et que c'est bête à dire, mais quand on est sur un scénar de 2 heures, une scène de combat, il en faut pas des masses. Ou alors que les joueurs rapidement se rendent compte que une maigre bête de la nuit, ça se bute pas comme ça, et que fuir, ça peut être une bonne idée.
Alors quand tu dis pas beaucoup, t'en mets ou t'en mets pas du tout?
Généralement, il y en a pas plus de 2. Et s'il y en a plus de 2, la troisième entre guillemets, c'est un poussoir vers entre guillemets la porte de sortie. C'est-à-dire que là, le premier, c'est pour qu'ils sachent un petit peu ce que donnent les lancers de dés, qui testent un petit peu les combats. Le deuxième, c'est pour se rendre compte que, Toulouse, on joue des humains. Et que un humain, ça reste un humain, quoi. C'est pas un surhomme. Et le troisième, là, généralement, ils ont compris que le deuxième, ils ont pris suffisamment cher. Ils vont peut-être pas aller forcément au combat. Ou alors, s'ils vont au combat, rapidement, fuir, c'est bien.
D'accord.
Mais ça, c'est un impératif aussi de temps. Parce que mettre 3 scènes d'action et puis descendre 3 fois un machin avec 17-18 PV, c'est long, quoi.
Alors après, là où ça m'étonne, c'est que, moi, de toute façon, pour les petites parties comme ça, j'utilise toujours des règles custom avec l'esprit, la bagarre... la fuite, des petites compétences marrantes et tout ça, mais pas forcément de compétences et de caractéristiques. Et par contre, le combat, je le fais sans respecter les règles et les points de vie. C'est J'ai plus une fiche, moi, parce que j'aime bien que ce soit tactile. J'ai plus une fiche avec des petites graduations où tu fais déplacer des petits jetons. C'est des petits jetons que tu trouves n'importe où, là, chez Philibert ou quoi que ce soit. Et puis de leur dire, voilà, t'es fatigué, t'es carpettes, t'es machins.
Tu vois, je pense que tu soulèves un autre gros point du scénar.
Je soulève des choses, moi.
Ouais, non, mais je te reconnais bien là. Hein. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu soulèves aussi un gros point de scénar de convention, c'est la question des règles. C'est-à-dire, est-ce que sur un scénar de convention, on joue un jeu by the book? Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a des gars qui vont dire, bah oui, les mecs qui viennent pour découvrir ce jeu-là, donc autant leur donner une approche la plus fidèle possible du bouquin. Ou alors, est-ce que on peut leur faire découvrir finalement ce que c'est que le jeu de rôle, ce que c'est que l'activité? Et dans ce cas, est-ce qu'on passe pas sur un système plus light, voire un truc maison qui ressemble plus grand chose au jeu initial, quoi?
Ouais. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Alors, fais tourner la question.
Donc, la question, voilà, que faire des règles? Qu'est-ce qu'on fout des règles? Est-ce qu'on reste by the book ou autre chose?
Alors, et si autre chose, ben quoi? J'ai tendance à simplifier, mais en général, le peu que je simplifie, parce que j'utilise le système Gumshoe qui est finalement assez simple, le peu que je simplifie, je mentionne. Par exemple, chaque profession a une règle spéciale qui est compliquée à expliquer, etc. Du coup, je leur dis, bon, pour cette partie, nous, on n'utilisera pas les règles spéciales. Mais comme ça, ça leur donne une idée de ce que ça peut être si on s'engage dans une campagne où on va vraiment utiliser toutes les règles.
D'accord. Et toi, Desprit?
Je jouais longtemps by the book en ADC, enfin System Chaosium, mais je crois que c'est aussi un peu le truc qui nous chiffonnait tous. Les combats avaient tendance à durer assez longtemps quand ils étaient équilibrés. Et à côté de ça aussi, sur le Chaosium, il y a des problèmes... sur le jeu en conf, c'est par exemple la lecture des ouvrages impies. C'est des trucs qui normalement prennent des jours, voire des mois, des semaines. Donc quand il y a un rituel à la fin et que le scénario se joue sur une ou deux journées de temps de jeu, c'est pas. Il faut qu'on squeeze. Donc il y a des arrangements sur certains points. Et le dernier scénario que j'ai fait, j'ai tenté un Cthulhu hack avant que le jeu sorte sur la version démo. J'étais très 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 agréablement surpris. C'est très rapide, les combats.
Tu peux nous citer ses points forts et après on fera ses points faibles, parce que ça m'intéresse vu qu'il va il commence à être démocratisé.
Ouais. Alors bon, on va pas rentrer dans les détails complets, hein, parce que ça fait maintenant plus de 6 mois presque un an maintenant que j'ai joué la dernière fois, donc j'ai plus tout en tête. Disons simplement qu'il est rapide. Qu'il est assez intuitif pour les nouveaux joueurs, parce qu'il y a quand même un esprit à avoir pour les routiniers de Chaosium ou de Trail, c'est peut-être un peu perturbant, mais une fois qu'on l'a, on l'a bien, et son avantage, pour moi, il est très bon en convention, sauf si tu as une grosse table. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir 4, c'est la limite, je dirais. Si tu as 5 joueurs, 6 joueurs, c'est mort. Parce que ça va devenir une sorte de rouleau compresseur au scénario. C'est-à-dire qu'entre eux, ils vont mutualiser leurs efforts, ils vont de toute manière arriver à dérouler les choses, parfois de manière un petit peu simple, où j'ai pas saisi toutes les subtilités. Donc, en tout cas, d'accord. Je vous incite vraiment à tester.
Cthulhu Hack, c'est une adaptation à Cthulhu de l'OSR, donc des premières éditions de Donjons et Dragons, qui à la base sont des jeux de gestion de ressources. Donc effectivement, quand t'as beaucoup de joueurs, les joueurs peuvent mutualiser leurs ressources et avancer beaucoup plus vite que quand t'en as peu.
D'accord.
Ce qui voudrait dire que peut-être pour avoir un contrepoint, ce serait de les faire peut-être pas forcément tous copains dès le début, mais ouais, tu me diras, ils deviendront après des enfoirés.
Pour vous dire, Cthulhu Hack, c'est 2 pages le système de combat. Voilà, le cœur du système de combat, c'est 2 pages. Enfin, 2 pages,
ouais. Côté système, 2 doubles pages. À part Trail of Cthulhu, vous en avez d'autres qui qui ferait le job?
Bah pour le coup, moi, j'utilise la bonne vieille méthode de Chaosium à deux petits éléments près. C'est que par rapport à ce que disait Desperate, par rapport aux lectures d'ouvrages, là, j'ai un petit trick, c'est que généralement, c'est bah tiens, vous découvrez le Necronomicon, parce que ben, alors entre guillemets malheureusement, mais dans l'imaginaire, dès qu'on parle tout, ben, forcément, on parle du Necronomicon. Et si on, entre guillemets, on n'a pas le Necronomicon dans une partie de Cthulhu, ben, il y en a qui peuvent être déçus. Donc là, je sors carrément mon bouquin, je le mets sur la table.
Excellent.
Et puis, je leur dis rien. Vous trouvez ça. Voilà. Le culte des ghouls, je sors le culte des ghouls de Chimnemos, vous trouvez ça.
Ah, c'est bon.
Et,
là,
et rien d'autre. Et 9 fois et demi sur 10, il y a toujours un petit malin qui va prendre le bouquin, qui va commencer à le feuilleter. Et là, tiens, tu le feuillettes ? Eh ben, allez, tiens, vas-y, jette sentimental.
Ah, c'est bon.
Et là, d'un coup, j'ai des joueurs qui deviennent un peu plus frileux. Mais ils arrivent, j'ai quand même quelqu'un qui est tombé sur une invocation de grand ancien, et puis qui m'a sorti en scénar, bah tiens, j'essaie cette invocation.
Bah oui, pourquoi bon, pas.
Bah vas-y, au contraire, fais-toi plaisir.
Mais quelle bonne idée.
La pauvre a fini en PLS tout le reste de la partie, mais comme elle m'a fait un critique, le grand ancien lui a exaucé un squat. Elle m'a dit, bah, je voudrais que tout le monde survive.
C'est mignon.
Bah ok, tout le monde survivra, mais toi tu vas finir en PLS.
Et dans une autre dimension.
Voilà.
Lequel d'entre vous est... Pardon, excuse-moi, vas-y.
Et donc, par contre, deuxième chose que je modifie systématiquement, c'est les pertes de San.
Ouais, j'allais en parler. Où là,
par contre, c'est un des gros soucis pour moi de la version Chaosium en conf, c'est que ben une perte de San, pour la montrer réellement, faudrait que le perso joue en jeu quelques mois,
ouais,
voire quelques semaines. En convention, les gars, ils vont jouer maximum une journée. Donc c'est compliqué de voir vraiment des vraies pertes de San, de commencer à leur faire toucher les notions de folie qui fait un petit peu la force de ce jeu. Et donc moi les pertes de San, les mecs c'est plus au D6 quoi. C'est ok, tu perds 7 points de San parce que t'as vu. Voilà, je maximise systématiquement.
Là-dessus, moi je m'appuierais sur une règle. Je sais pas si c'est toujours dans la V7. Mais il y avait une règle qui disait de toute façon une perte de San de 1 des 3, quel que soit le résultat, au minimum, donc 1 des 3, 1 des 4 et tout ça, tu t'arrêtes de faire tout ce que tu fais, tu te mets à vomir. Tu switches. Tu peux pas. C'est pas juste t'as perdu. Mmh. C'est juste, voilà, si t'avais ton flingue qui se pose par terre, t'es à terre, les genoux par terre, t'es en train de baver, enfin, t'es en train de perdre de la bile et tout, ça fait j'boum là-dedans, quoi. Donc moi j'avais tendance toujours à utiliser ça, comme ça en effet, bon, tu vas pas jouer la folie à long terme, mais tu joues le choc. C'est-à-dire t'arrêtes tout ce que tu faisais, je prends le contrôle de ton perso, t'arrêtes tout ce que tu faisais, et puis tu reprendras le cours une fois que je te l'aurai dit, quoi. Mais parce que c'est vrai que tu peux pas jouer la folie, alors tu pourrais jouer les phobies, parce que c'est marrant les phobies. Mais bon, ça serait un peu facile. Mais
non, mais sinon, t'as la bête paranoïa.
Oui.
Là, tu glisses un petit mot au gars en lui disant, bah voilà, dès que tu peux, tu poignardes dans tes potes.
Ah oui, oui, chez toi, la paranoïa, c'est quand même assez aigu, quoi.
Ah, en fait, ouais, c'est le gars qui n'a plus confiance en ses collègues. Au bout d'un moment, ouais, mais attends, lui, il va essayer de nous buter. Donc tu lui dis un petit mot, ben prochaine occasion, sous prétexte que le mec va essayer est en train de vous entraîner vers un danger immense, ben tu le poignardes
ou tu lui donnes carrément des injonctions, quoi. Tu lui dis fais ça.
Ouais. Là c'est carrément voilà, tu fais ça, quoi. Bon après c'est aussi ça m'arrive aussi parce que j'ai un scénar que j'aime beaucoup. Ou à la fin, je leur dis carrément, ben voilà, cash, hein, si vous voulez survivre au scénario, faut buter un de vos joueurs. Ah ouais, non mais là, ça marche. Et, non, mais là, ça marche systématiquement.
T'en as jamais qui hurlent et qui te disent, ah, bah, tu t'es dirigiste, des trucs comme ça, non? Non?
Alors, en fait, non, parce que,
c'est marrant.
je prends quand même en amont, on en revient aussi encore à la présentation et comment vendre le jeu, en leur disant, bah voilà, étant donné qu'on est en 2 heures, faudra pas s'attendre à un truc qui soit super, non linéaire, voilà. Moi, j'ai des trucs qui sont posés. Vous pouvez passer par la case C avant la case B, etc. Mais le fil directeur, ben, il n'y aura pas possibilité, malheureusement, de faire un truc super, super non dirigiste. Et à la fin, essayé, en fait, c'est vraiment. Ben, en fait, j'ai essayé et ce qu'il y a, c'est que systématiquement, je pars au-delà de 2 heures.
Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas essayé le savonnage de planche. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un truc que les joueurs, ils adorent. C'est de leur servir un prétexte à jouer leur folie. Quand je veux rendre un mec parano et je veux le faire tirer sur son pote parce que il a perdu beaucoup de points de scène, plutôt que de lui dire tire sur son pote, je vais de temps en temps, quand on est dans un aparté ou quand les joueurs font des trucs, je vais décrire au personnage, et là tout d'un coup tu vois que le mec, au moment où il engage son chargeur, il te regarde du coin de l'œil, et puis quand vos regards se croisent, il regarde immédiatement ailleurs et il a l'air d'être vachement suspect. Et petit à petit, tu vois, je lui dis des trucs comme ça, genre il conduit la voiture, bah, il te regarde dans le rétro, il jette des petites œillades et il a les yeux vachement méchants. Et petit à petit, le joueur, il va prendre ça, quand c'est un rôliste qui a un petit peu de bouteille, il va prendre ça au vol. Et tu rajoutes des éléments comme ça qui sont faux, qui sont vrais, et puis tu lui suces sur des petites choses, et quand les autres joueurs comprennent, ça va tout seul. Si jamais il y a un joueur qui dit « Oh ben non, moi, je fais pas ça », tu lui dis juste « Non, non, attends, laisse-moi décrire les choses. »
Ça fonctionne
super bien.
Bah, en fait, t'as mis le point aussi de ce pourquoi je ne fais pas ça, et entre guillemets, je peux pas. C'est qu'en fait, j'ai quasiment que des tables de familiales.
D'accord.
J'ai pas fait de convention, en fait, de convention de plus rôliste.
Maman, as-tu fait
papa? Ben ouais. Et papa a violé la petite sœur.
Ben, déconnez pas, mais je me suis retrouvé une fois à une table, effectivement, avec un gamin de 9 ans et sa maman.
Waouh.
Eh ben, j'avais prévu une magnifique salle de bain recouverte de sang, etc. Bon, ben, elle attrape la salle de bain recouverte de sang qui devait quand même bien poser l'ambiance. Et puis, ben, en fait, j'ai eu autre chose.
Donc, attends, toi, tu vas en convention, tu prépares une salle de bain pleine de sang, mais t'es ouf, quoi.
Non, c'est extra comme idée.
Ben, en fait, surtout, le pitch du scénar, c'était... c'est un scénar qui était inspiré du jeu de plateau, Les Demeures d'Épouvante, où, en fait, il y a un petit garçon qui hante une maison. Et, en fait, ben, ils entendaient des cris de petits garçons... qui disait, bah non, faut pas me faire de mal, etc.
C'est un truc qui a tiré un prêtre.
Et en fait, il rentre, et là, il tombe sur une salle de bain avec une baignoire recouverte de sang, du sang plein les murs. Ah bah, de suite, les gens, ça les calme, quoi.
Ils se détendent.
Disons qu'il passe, d'un coup, en fait, c'est le moment où il passe d'un jeu de rôle plutôt sympa, effectivement, on est dans un vieux manoir tranquille. C'est vrai que les mecs, je vous avais prévenu que c'était de l'horreur. Donc, on va jouer là-dessus, quoi.
Pour les conventions, moi, je prends souvent des trucs tirés des films genre Indiana Jones, plutôt. Même pour l'horreur, quoi. Moi, mes scénarios pour l'introduction, ils ont plutôt tendance à tirer sur le pulp, que je trouve plus accessible et plus facile à monter qu'une ambiance vraiment terrifique, quoi. Puisqu'il y a un truc... rendre le côté tullien et tout ça... Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une question. On parlait système, il y en a un qui parlait de sombre.
Ouais.
C'est qui?
Oui. C'est moi.
Sprite. C'est Dark Keeper.
Non. Ouais. Vas-y, Dark Keeper, t'as l'air tout fou, là.
Bah, je peux vous parler de sombre parce que effectivement vous parlez de jeu, on parle de jeu en convention et à sombre, donc le webzine la peur comme au cinéma, c'est principalement des jeux des scénarios à format court sur des jeux qui sont faits pour justement faire fait et testé par son auteur dans des conventions, dans des lieux qui correspondent un peu aux contraintes que cité Sergissant. Donc,
par Dieu, des gens si qui je passent. Permettre, c'est ouais. Par Dieu, parce que son auteur est un dieu. Non, je déconne.
Alors, je tiens Joanne Scipion en haute estime. À... Après, je...
Non, vous êtes deux. Il y a lui et toi.
D'accord.
Non, je le connais mais, très bien. On a bossé ensemble. Mais j'ai un problème, c'est que mon énorme ego prend trop de place et le sien aussi. Et donc, ça n'a pas fonctionné.
Ah,
le sien a continué à gonfler, le mien a rétréci.
Ouais.
Mais par contre, attention.
Depuis quand
son système et ce que tu dis est tout à fait juste, et je vais te laisser continuer, excuse-moi, mais faut se détendre un peu parce qu'on n'est pas dans une réunion.
Il n'y a pas de souci.
Et je n'en veux pas particulièrement. Mais
non, parce qu'on n'est pas dans la civile.
Voilà.
Non, mais
il n'y a pas de gonzesses qui sont des trucs à la con de toute façon. Donc. Mais non, par contre, son système est purement fait pour la convention. Et là, j'aimerais bien que tu rentres un peu dans le détail. Parce que moi, j'ai déjà vu tourner. C'est vraiment des.
Eh bien, considération d'ego et de cheville mis à part, je souhaitais vous parler de Sombre 9, qui est donc une sortie février, toute récente. Et dans Sombre 9, il présente un système qui s'appelle Sombre Max, qui sert à faire ce qu'il appelle des actionneurs horrifiques. Typiquement, jouer les, par exemple, les héros de Alien ou de Predator, pas les monstres, hein, les pauvres Marines, qui certes au début sont badass, mais qui vont rapidement s'en prendre plein la gueule. Et pour illustrer ce système de Sombre Max, il propose un scénario Cthulhu, l'appel du Bayou, donc pour 3 à 5 joueurs, qui se jouent de 1 à 2 heures. Et qui reprend, qui est une libre adaptation de la fameuse scène du récit de l'inspecteur Legrasse lorsqu'il descend dans le bayou.
Wow. Et alors, pourquoi moi, ce qui m'intéresse surtout, là, parce que là, t'as fait la promo, c'est bien. Tu peux ranger ton truc comme sandwich. Mais pourquoi ça tient en 1 ou 2 heures
Voilà. Les scénarios de Sombre Max, c'est 3 scènes. 3 scènes. Donc, on sait qu'on ne jouera pas plus de 3 scènes. Et la description est faite. Les consignes dedans sont assez claires pour que la partie ait un certain rythme qui nous assure de tenir ce délai.
Alors justement, comment ils arrivent à maintenir ça? S'ils discutent depuis 5 minutes, tu balances une grenade ou un zombie ou...
Non, en fait, comme le but est de jouer des actionneurs horrifiques, la première scène... La première scène est une scène d'action. Dans le cas de notre scénario, ça va être... l'inspecteur Legrasse et son équipe débarquent sur l'île dans le bayou où il y a les cultistes et immédiatement ceux-ci les repèrent et les attaquent. Donc c'est une scène de combat. Contrairement à des systèmes comme l'appel ou même le système Gumshoe, Sombre Max c'est un système qui est très simplifié, qui va très vite. Et j'ai eu l'occasion de le tester hier soir, ça marche du tonnerre, et effectivement, on a bien cette sensation d'action intense, où on risque sa vie, parce que les systèmes de Sombre, en général, sont assez mortifères, et Sombre Max ne fait pas exception.
Est-ce qu'il y a de l'enquête ?
Et effectivement, une fois cette première scène d'action passée, il y a une sorte de vide qui s'installe parce que la tension redescend et il y a effectivement une scène d'enquête ou enfin une micro scène
recherche, ouais,
enquête et et confrontation parce que dans Sombre Max, surtout dans l'appel du Bayou. Ce sont des personnages relativement hauts en couleur, on est loin des flics anonymes qui accompagnaient John Legrasse. John Legrasse a formé une équipe de vigilantes, donc de personnes qu'il a engagées au nom de la police pour l'aider, mais qui comportent notamment une reine du vaudou, un habitant du bayou, enfin des personnes qui ont des profils et des motivations très différentes qui vont fatalement rentrer en confrontation.
Et comment tu peux t'assurer que la scène de confrontation ne dure pas 1h30?
Alors, c'est relativement prévu parce que Il est inscrit effectivement à comment finir la scène.
D'accord.
La scène. C'est-à-dire que les personnages ont des cartes de personnalité qui servent en fait plutôt de jauge de folie. Le système est très simple, il y a trois cartes de personnalité, il y en a une par scène, et en fait c'est le même travers de plus en plus exagéré. Je vous prends un exemple, il y a l'une des cartes c'est cynique, la deuxième c'est désabusé, le troisième c'est malfaisant. Et l'appel du Bayou mise sur le fait d'un enjeu très fort, ça veut dire que John Le Gras, l'inspecteur, veut retrouver sa fille kidnappée, et a mis sur le fait que les éléments révélés vont créer une tension qui vont pousser l'inspecteur Le Gras et l'équipe vers la troisième scène.
D'accord. Et mais ce qui veut dire que la troisième scène, j'imagine que c'est une scène d'action pour terminer.
Oui.
Et donc finalement, tu la lances quand tu veux, quoi.
Alors, il y a plusieurs façons de la lancer qui sont indiquées dans le scénario. Il est prévu que, par exemple, si en scène 2, les personnages se mettent dessus, alors le monstre apparaît et la scène a lieu. Je ne veux pas plus spoiler que cela.
Alors, après, c'est pas une critique, hein, mais là, on est quand même dans mais c'est le contrat, mais c'est de l'hyperdirigisme.
Alors, effectivement, de façon, l'appel du Bayou, à peu près comme tous les scénarios de Sombre, c'est pas du dirigisme, c'est juste que il prévoit un cadre fermé, concis. C'est presque un huis clos en fait, parce que finalement on est au milieu d'un bayou où il n'y a pas d'échappatoire, et le jeu joue là-dessus puisque seul l'habitant du bayou sait comment sortir. Et un cadre très fermé qui offre peu d'options, et le scénario couvre l'intégralité de ces options.
Moi, c'est ce que j'appelle le dirigisme. Après, on a.
Si tu veux dirigisme, c'est pour moi, c'est t'as une option et on t'y force.
La scène 2. Arriver à la scène 2, on te force à y aller quand même. La confrontation, on t'oblige à. Ouais. À y aller, non ?
Alors, la confrontation n'a pas forcément lieu. La confrontation entre les PJ, en fait,
s'ils s'entendent tous,
alors ils s'entendront pour deux choses, parce qu'ils vont pas passer leur vie sur cette île. Ils vont soit s'entendre pour aller à la troisième scène.
D'accord.
Pour trouver, soit tenter de quitter l'île. Et dans les deux cas, le monstre va les attaquer. Donc c'est.
Ouais, mais en fait, c'est un faux libre arbitre, en fait.
C'est un faux libre arbitre, mais qui marche et qui assure que le scénario tient dans les délais d'une convention raccourcie, c'est-à-dire d'une heure à deux.
C'est pour ça qu'au-delà de mes réflexions malfaisantes, après avoir été cynique, oui, je passe.
Et désabusé.
C'est bien, on a une preuve par l'exemple du système par Vonve.
Ah, ça marche bien, en trois scènes, tac, tac, tac.
L'idée derrière, c'est de se dire peut-être que pour une convention comme on l'entend, c'est-à-dire moi je l'avais en tête, c'est-à-dire deux heures dans un lieu où il y a du monde, avec des gens que tu connais pas forcément, qui connaissent pas forcément le jeu de rôle, c'est peut-être en effet l'idéal. Ce entre guillemets dirigisme, ce cadre fixe.
Ah oui, pour moi, la force des scénarios de Sombre, c'est qu'effectivement, il y a un cadre fort. On n'est pas paumé avec plusieurs options, ou paumé dans le sens où on ne sait pas trop quoi faire, du coup on va chercher des éléments, et puis le MJ se trouve à inventer d'autres éléments qui créent de la confusion. Là, en général, c'est très simple. De toute façon, le scénario, il fait même pas 40 pages. Je les ai pas comptés, mais 40, page 40 à 52, il fait 22 pages.
C'est un petit format.
C'est un tout petit format. Et du coup, les descriptions sont très simples, elles sont basées sur ce que j'appelle moi le détail significatif. Ça veut dire on va pas te décrire une myriade de choses, on va juste te décrire un détail qui va te marquer et qui va mettre l'ambiance, quoi.
D'accord.
Après, ce qu'il y a, c'est que le dirigisme sur des tables comme ça, On peut la voir, par exemple, sur le, on va dire, le, l'enquête, entre guillemets. Bah, c'est, mine de rien, c'est des manteaux noirs, même si on a l'illusion de dire, bah voilà, on peut passer par le point, par le point C avant le point B. Mais au final, on peut se retrouver avec un scénar qui est relativement ouvert, où, bah, à l'instar encore des manteaux noirs, à l'instar de, du scénar que je proposais, fut un temps où, je leur dis, bah voilà, vous tuez ma maman qui m'a fait du mal et qui m'a tué, sinon moi je vous tue. Puis ma maman, bah en fait c'est une des joueuses. Là en fait il y a des joueurs qui, bah voilà, il y a le joueur qui va essayer de se suicider, il y a les joueurs qui vont buter le, l'autre joueur qui, avec lequel ils ont transpiré, sué et perdu des pièces et de la sand ensemble. Ou alors les mecs ils refusent et puis voilà. Donc là effectivement on peut avoir aussi un aspect entre guillemets non dirigiste sur une clôture de scénar. Mais c'est vrai que c'est plus, plus rassurant entre guillemets de savoir qu'on a un scénar entre guillemets dirigiste quand on ne connaît absolument pas les joueurs.
Pour terminer sur, le, sur la petite chronique de Sombre, effectivement on a un cadre qui est très dirigiste. Après les cartes de personnalité ont l'avantage et les backgrounds un peu conflictuels parce qu'en fait il y a John Legrasse et son bras droit pour faire simple qui veulent aller de l'avant et la Vaudouqueen et puis le, l'homme du marais qui eux pressentent le danger et ne veulent pas y aller. Donc ça peut créer des fins différentes en fait. La, le jeu prévoit ça. Ce n'est pas un toboggan vers vers un lac avec le monstre dedans. Mais toutefois.
Ouais, d'accord. Je suis. Tu veux dire. Non mais c'est intéressant. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais toutefois.
Mais toutefois, effectivement, le sombre, c'est de la peur comme au cinéma, donc c'est prévu pour un rythme semblable à un actionneur horrifique. Donc effectivement, dans tous les cas, à la fin, il va y avoir la grosse bestiole, enfin le gros monstre qui va montrer aux victimes ce qu'elles sont, quoi.
Moi j'ai une question. J'ai une question justement qui me trotte. Il y a une critique que je lis de temps en temps, mais qui est pas mauvaise sur l'appel de Cthulhu et a priori aussi applicable, enfin qu'on peut poser sur Sombre. C'est finalement quand on fait l'appel de Cthulhu ou quand on joue comme ça, est-ce que on peut faire du Lovecraftien ? Parce que les gens font du Cthulhu. Mais finalement, est-ce qu'on a les moyens de faire du Lovecraftien ? Je m'explique. Être raccord sur l'horreur métaphysique et axer les choses sur l'horreur métaphysique. Parce que on est d'accord, il y a beaucoup de scénarios en fait où le Lovecraftien c'est qu'une teinte, c'est que c'est qu'une couleur dans le scénar. Est-ce qu'on peut faire un scénario de convention qui soit Lovecraftien ? Moi, j'ai l'impression qu'avec Sombre, on ne peut pas. Ou très difficilement, est-ce qu'on peut ? C'est quoi votre avis ?
Alors, pour Sombre, terminer rapidement, Sombre ne s'y prête pas parce que ce n'est pas l'objectif de son auteur. C'était ma grosse crainte quand j'ai abordé ce Sombre 9, c'est de me dire, ok, il y a du Cthulhu, moi je vois ça plutôt côté enquête, une approche un peu type puriste Lovecraftien, et par rapport à un système de jeu d'action, et ça, est-ce que ça va coller, est-ce que ça va pas coller ? Le fait est que Sombre tient ses promesses, mais il ne promet pas de faire de l'horreur Lovecraftienne. À aucun moment, il y a une dimension cosmique qui s'installe. C'est vraiment... on respecte le credo esthétique de l'œuvre de Lovecraft, mais par contre, effectivement, on n'est pas du tout dans la cosmologie, l'horreur Lovecraftienne, qui finalement émerge souvent d'une réflexion en fait. Pour que le personnage comprenne l'horreur cosmique dans laquelle il est, c'est issu d'une réflexion. Et Sombre étant Sombre simulant de la peur comme au cinéma dans des films où il y a de l'action, effectivement, il n'y a pas le temps à la réflexion s'en trouve considérablement raccourci. Voilà.
D'accord.
Après, sur d'autres systèmes, Sans aller sur la notion métaphysique et cosmique, tu as aussi dans Lovecraft l'horreur personnelle qui a été développée. Et en reprenant encore les manteaux noirs, qui pour moi par contre est un très bon scénar de convention, long, mais très bon scénar de convention, la fin où, alerte spoil, hein, la fin où on dit au gars, ben voilà, vous avez le choix, soit vous laissez votre meilleur ami finir avec les boules, parce qu'il est en train d'en venir une, ou alors est-ce que vous essayez coûte que coûte de le ramener vers l'humanité, c'est de l'horreur personnelle. C'est que là, on se dit, attends, le mec, ça fait quand même 2 heures que je suis en train d'essayer de me casser le cul à le retrouver, à le ramener chez ses potes, puis là, on me dit que, ben non, en fait, il serait bien mieux avec des ghouls qui sont des créatures qui ne sont pas humaines. On a cet aspect-là. Et je pense qu'on peut, malgré... Par exemple, le système de sombre, que pour le coup, je ne connais pas assez. Hein. Dark Keeper pourra mieux répondre à cette question. Mais je pense qu'on peut amener de l'horreur personnelle dans ce genre de jeu.
Ouais.
Dans ce genre de système.
Ouais. Alors là, pour le coup, j'ai testé Sombre Max, qui fait des actionnaires horrifiques. Mais effectivement, Sombre Classique propose une version beaucoup plus raffinée de la folie naissante, avec une jauge dédiée plutôt qu'une carte de personnalité par scène et puis roule ma poule. Donc effectivement, on pourrait davantage se plier à ce genre d'exercice.
D'accord. J'ai vu des questions intéressantes là, que tu avais mis, Steve. C'est le coup du après la convention. Juste pour voir un peu, parce qu'il est déjà 22h20. Le coup du garder des contacts ou des choses comme ça. Moi, ça m'a fait penser à un truc. C'est suite à ma partie d'initiation au boulot, je leur ai donné des aides de jeu. En fait, j'avais fait les aides de jeu parce qu'il y a la fameuse lettre que tu retrouves chez la femme du mec là, qui se fait interner, des choses comme ça, et je leur ai filé, plus leur feuille de perso, et ils ont vachement aimé le côté je goodies. Ramène un truc chez moi, goodies, machin.
Moi je fais ça systématiquement. C'est-à-dire que j'ai toujours une quinzaine, vingtaine de fiches de perso sur moi. Et en fait, alors systématiquement. En fin de convention, s'entend, parce que je vais pas me dépouiller de mes fiches de perso d'un scénar sur l'autre. Mais en fin de convention, généralement, les gens, tenez, vous partez avec vos fiches de perso. Et c'est vrai que ouais, les gens sont plutôt contents. Et puis, ça fait un souvenir matériel.
Oui, parce que c'est... On leur dit que c'est quand même sur du papier et du crayon, et que ça va être, enfin papier crayon D. Et donc le fait de repartir, moi je trouve avec leur feuille de papier, ça montre ce qu'est le jeu de rôle, quoi, en quelque sorte.
Ça fait un petit, c'est aussi un petit peu la carte postale qu'on achète pour soi en retour de vacances, quoi. C'est en revoyant ça, on se dit ah ouais tiens c'est vrai j'avais fait ça. C'est plutôt sympa.
Il y a une conve que je fais où les orgas proposent de faire une photographie par table par un photographe pro et qui fait un traitement en sépia, un truc assez cool. Alors il y en a, on fait une photo sérieux, on fait une photo délire pour ce que les gens veulent garder. Et après ils proposent aussi carrément des fonds d'écran. Des photos les plus sympas de la convention. Et cet aspect, effectivement, un peu, je vais pas dire fétichiste, même si je le pense, mais un peu, on emmène quelque chose, c'est très agréable. Il y a un truc que je faisais en campagne qui demande peut-être du temps et aussi un peu des droits, mais quand je termine une campagne avec mes joueurs et que c'était vraiment marquant, je leur fais une BO. Des moments les plus des musiques les plus marquantes de la campagne. Je sais pas si en convention ça pourrait être sympa, mais quand le scénario était vraiment marquant, ça pourrait être carrément cool. Bien sûr, tout était libre de droit et je l'ai fait moi-même bruit à la bouche. Alors, au cas où il y a des mecs de la SACEM.
Le problème de ça, c'est que moi en convention, déjà, j'arrive pas à mettre de musique. J'adore masteriser en musique. Je trouve que c'est une aide à l'ambiance qui est juste géniale. Mais c'est vrai que on se retrouve généralement dans des salles où on n'a pas forcément le matériel, où il y a quatre personnes, enfin quatre tables qui sont autour, il y a du bruit, il y a du monde qui passe. C'est un peu plus gênant, quoi. Mais je pense qu'effectivement, ouais, si tu as le moyen d'avoir des espaces relativement calmes, ouais, ça peut être sympa.
Tandis que de mon côté, je masterise pas mal en musique parce que les convs où je vais souvent c'est dans des maisons pour tous ou dans des locaux de mairie où il y a des salles de réunion, donc en général on est assez tranquille. Du coup, je masterise pas mal en musique et outre le fait que je laisse les joueurs partir avec leur feuille de perso, parce qu'en général je fais une ronde de Cthulhu, les autres rondes je fais d'autres jeux. Il y a des fois des personnes qui me demandent quelle musique j'ai utilisée. Donc là je leur donne les sources bien volontiers. Comme ça leur permet de retrouver la musique plus tard pour la réécouter. Si...
Ouais, c'est très sympa ça.
C'est cool.
Bon, on va peut-être être obligé de clore là.
J'avais juste une question parce que Cthulhu, de manière générale, on l'a vu plus avec Sombre, c'est un jeu où on a pas mal de possibilités de décès. Et puis surtout par rapport à une vente entre guillemets d'un scénar de Cthulhu par une MJ en convention qui avait dit de toute façon mon scénar vous allez tous crever. Et rien que cette phrase-là, en fait, la table a été prise d'assaut. Et en fait, la question est de savoir, voilà, la mortalité pour vous en convention. Moi, je sais que je tue beaucoup de gens, mais c'est parce que, c'est aussi parce que j'ai un scénar où à la fin, c'est soit je tue, soit vous tuez un joueur.
Son scénar, c'est un peu ton exécution au début. Boum, boum, boum.
Ah ouais, non, mais c'est... Et puis, non, mais en plus, le scénar est prévu pour. Hein. Le pitch, c'est que, il y a un joueur qui voit un petit garçon sur une route, ils ont un accident. Puis, en fait, le petit garçon, il entre le château, la maison. Et puis, en fait, on se rend compte que la personne, c'est soit le papa, soit la maman qui a tué le petit garçon. Et donc, en fait, les joueurs, démerdez-vous. Soit vous butez votre pote. Et vous avez une chance de tous vivre. Soit vous butez pas votre pote, et puis là, c'est l'enfer sur terre, quoi. Et là, par contre, vous avez tous crevé.
Moi, perso, j'irai pas dans la. Je mettrai pas les joueurs les uns contre les autres dans mes parties. Mais par contre, ce que tu dis est vrai, c'est que pour moi, le retour. Alors, tu le fais pas à chaque fois. Hein, quand tu dis les potes, ça peut être un PNJ qui est pote. Mais moi je dis ça comme ça, j'ai tendance à garder les PNJ tous vers le même but. Mais par contre, le gros intérêt des parties de une ou deux heures, de deux heures comme ça en convention, c'est qu'en effet tu retrouves, moi ce que c'est personnel, mais ce que je retrouve comme essence à Cthulhu, et que tu perds quand tu fais une campagne parce que tu sais que les joueurs il va falloir les conserver, c'est que là, le premier qui fait un faux pas, bye bye. Tu iras voir le stand des glaces à côté, ou alors tu iras faire du Dungeons Revolution à côté aussi. Mais il y a un côté en plus très très frustrant pour le premier mec qui se fait dessouder. Parce que je lui dis non, mais t'arrêtes de jouer, tu peux garder ta fiche, mais tu joues plus, tu parles plus. Et les autres continuent à jouer, et puis ils voient leur pote ou la personne qu'ils connaissent pas, mais qui dit plus rien. Et sans déconner, t'as un regain de tension. Au moment où les mecs se disent putain mais ah oui on peut arrêter de jouer quoi, c'est pas du Monopoly, c'est pas des petits chevaux, c'est
un autre Monopoly jeu. Quand t'es banqueroute hein, voilà.
C'est au bout de 6 heures, mais t'es pas banqueroute au bout de 3 minutes quoi.
Voilà. Sauf là, si tu as de la malchance.
Là le gars pour jouer il a un flingue, il pointe sur le flingue sur la tête du pote, il fait pan, t'es mort. Ouais, surtout comme moi, t'es suffisamment con pour poser un flingue sur la table. Là, t'as toujours, t'as systématiquement un joueur qui va prendre, qui va pointer sur un pote, t'es mort. Ah, bon, ok, il est mort.
Non, mais je déconne.
Après, moi, le fait de mettre les joueurs les uns contre les autres, c'est aussi justement pour les forcer à faire des choix. Et des choix moraux où, est-ce qu'en fait on va réellement aller jusqu'à le tuer, quoi.
Ouais, mais les choix moraux, le problème c'est que tu vas pousser des gens au-delà du jeu, et ce sont des gens que tu ne connais absolument pas. Et tu
peux tomber sur le
Tu vois, tu peux tomber sur le Gugus qui a pas du tout cru à ta partie et qui va dire bon bah je bute tout le monde. Tu peux tomber sur le dépressif chronique qui venait un peu prendre un bol d'air à une convention et puis il se retrouve avec
Mais qui crève, merde, bon, tu vas foutre une X-Guard maintenant dans tes jeux,
c'est putain. Effectivement, c'est pas super safe, mais après, je préviens aussi que ce sera pas une partie de l'ours, quoi.
Mais voilà.
Je leur dis clair, si vous pensiez être sur mon petit poney, le stand il est là-bas.
On va faire une pause sophrologie, les mecs, et puis je vous ramène les fraises. Ah, putain.
Je cadre aussi entre guillemets les joueurs en leur disant attention, ça va pas être forcément du drôle. Effectivement, si le mec il veut quand même buter tout le monde sur parce que c'est fun de faire ça, bah écoute mon grand, vas-y, hein, tu fais mon jeu, j'ai même plus besoin de sortir le monstre, tu vois. Mais non, sinon en fait c'est surtout pour leur dire voilà, est-ce qu'on peut entre guillemets, même si c'est sur un scénar one shot, il y aura pas de suite, est-ce qu'on peut tuer un mec avec qui on a quand même chié pendant un petit moment, quoi. Un gars le mec qu'on a tiré parce que le mec il n'arrive plus à marcher, on l'a tiré pour éviter toutes les emmerdes qui ont pu nous tomber sur la gueule. Et putain, le mec on l'a sauvé jusque là, est-ce qu'on va le buter, quoi.
Bah moi,
c'est surtout dans ce sens-là.
D'accord.
Sur mes parties, elles sont finalement assez peu mortifères, parce que justement j'aime bien faire contraste avec cette réputation que Cthulhu a de d'abattoir à PJ. Par contre, effectivement, les dangers sont réels, donc il y a l'effet le PJ il a perdu un bras, du coup il va faire beaucoup plus attention, quoi, sans forcément en arriver au meurtre, quoi.
Alors excusez-moi, les gars, il va falloir qu'on conclue. J'ai deux petites questions marrantes pour conclure. Vous essayez de répondre le plus brièvement possible. Est-ce que vous avez, en dehors de ceux qu'on a cités là, un système de jeu autre que n'importe quel jeu que vous trouvez particulièrement adapté aux conventions, donc aux parties plutôt courtes avec des gens qu'on voit pour la première fois? Steve?
Waouh, là tu me ramasses à l'arrache, là.
Bah, je sais pas, il y a quelqu'un d'autre.
Alors il y en a deux, Toulouac pour Cthulhu, et Corpus Mechanica pour les jeux d'action.
Plus un.
Ok.
Corpus Mechanica est exceptionnel, juste génial, très court, très simple.
Très court. Super.
Bah, les règles complètes, c'est une copie double.
Ouais.
Voilà, je crois que tout est dit. Après, en méthode un peu hardcore pour le MJ, je dirais système sans dés, sans rien. Avec juste une fiche de perso. Une fiche de perso, vous savez faire ça, 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 point. Et à vous de trouver le nom de votre perso, même vous prenez votre propre nom. Et en fait, en freestyle complet, sans dés, sans rien. Toutes les actions sont réussies tant que personne ne s'y oppose.
Dark Keeper de ton côté?
Moi je citerai Cthulhu Dark. Pas de. Le système tient en 3 pages. Ouais. Et le système il est simple, c'est que si tu tentes d'affronter une créature, bah t'es mort. Voilà.
C'est vrai.
Donc, ça pose une orientation de jeu, donc clairement c'est pas fait pour faire du pulp. Mais c'est crédible et il n'y a pas besoin de faire un exemple ou de buter un PNJ pour que les gens se rendent compte que c'est écrit sur
les règles. Une dernière question, parce qu'on est sur TOC. En dehors des manteaux noirs qu'on a cités, est-ce que vous auriez un scénar qui est sur TOC ou qui potentiellement était sur TOC, donc un scénar de Casus Belli, que vous conseilleriez, enfin que vous avez déjà pratiqué, même peut-être pratiqué plusieurs fois, pour faire des parties courtes en convention? Steve, excuse-moi, ou alors quelqu'un d'autre?
Moi, je reviendrai sur les Tales of Terror.
Ah, oui, c'est très juste.
Ils sont, bah là, on a une myriade de scénarios possibles. Après, c'est pas sur TOC, je suis désolé, mais le jeu de société, les demeures d'épouvante, où en fait, c'est vraiment du huis clos. On a des scénars qui sont extrêmement pointus, entre guillemets, parce que on a l'aide de jeu. C'est-à-dire, on a le plan, on a déjà tout. On a un début, on a même plusieurs fins. On a même plusieurs possibilités de cacher les objets à droite à gauche, donc une rejouabilité qui est assez intéressante. Et en fait, au final, ben, ce jeu de plateau propose du jeu de rôle.
D'accord.
Surtout dans la première édition.
Dark Keeper de ton côté.
Bon, on pourrait citer un gros classique comme la Maison Corbett qui a le mérite de pouvoir se simplifier très très facilement. Yes. Mais
une maison hantée, mais
sinon, à titre standard, personnel, hein. J'ai tendance à faire beaucoup d'improvisation, donc j'aurais pas de scénar.
De scénar conseillé. De ton côté.
Hormis celui de Sombre Max, qui remet une couche, l'appel du Bayou, évidemment. Mangez-en, c'est très bon.
Steve,
de mon côté, je joue très rarement sur des parties courtes. Il y en a un, c'est du Descartes, qui se joue à deux, donc c'est pas approprié non plus aux conventions. J'aurais peut-être tendance à faire de l'autopromo. Alors si je veux faire une partie courte, exceptionnellement, je vais peut-être les emmener sur du Cthulhu Alien, le scénario que j'avais écrit à l'époque, qui s'appelle Personne ne vous verra saigner, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ouais.
D'accord.
C'est du Alien.
Après, ouais, il n'y a pas de souci et tout ça. Bon, bah écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait quand même le tour de pas mal des sujets autour des scénarios de convention. C'est dommage, j'avais pas vu arriver le fait que vous, Dark Keeper et Steve, vous pensiez convention, plutôt convention rôliste. Alors que c'est vrai, un peu, moi, comme Serge Dissant, je pensais convention, la fête du jeu à Trifouille-les-Oies après la fête de la saucisse, quoi.
Mais après, c'est bien, au moins la table était équilibrée.
Exactement. Donc, attendez, je vais couper, avant de dire des conneries, je vais couper mon copain le...
Mon eh bien, au revoir à tous. Merci.
Attends, bouge pas. Attends, on va dire au revoir. Attends, bouge pas.
Au public, au pot de...
Je vais le déployer. Ouais,
au poditeur.
Je te dis quand je suis prêt. Hop. Ok. C'est bon. Bon, ben, Flingue-lui les poulpes. Merci. Merci Dark Keeper, merci Serge Dissant, merci Steve.
Ouais.
Et puis on essaiera de faire ça une autre fois. Et puis voilà, si vous avez des questions, ben vous pouvez venir sur les forums de TOC. Flingue-lui. Today we are canceling the apocalypse.